quand j'ai reconnu quelqu'un coupable, précisa Guillaume. Ce dernier avait réellement commis des crimes d'une nature telle que je pouvais le remettre avec bonne conscience au bras séculier. L'abbé eut un instant d'incertitude. « Pourquoi, demanda-t-il, vous attachez-vous à parler d'actions criminelles sans vous prononcer sur leur cause diabolique ?»« Parce que raisonner sur les causes et sur les effets est chose fort ardue, dont je crois que l'unique juge puisse être Dieu. » Nous avons déjà le plus grand mal à saisir un rapport entre un effet aussi évident qu'un arbre brûlé et la foudre qui l'a incendié. Alors, remonter les enchaînements parfois très longs de causes et d'effets me semble aussi fou que de chercher à construire une tour qui arrive jusqu'au ciel. Le docteur d'Aquin, suggéra l'abbé, n'a pas craint de démontrer avec la force de la seule raison l'existence du Très-Haut en remontant de cause en cause à la cause première non causée. « Qui suis-je donc ?» dit humblement Guillaume pour m'opposer au docteur d'Aquin. D'autant que sa preuve de l'existence de Dieu est étayée par tant d'autres témoignages, que sa démarche s'en voit confortée. Dieu nous parle à l'intérieur de notre âme. Comme le savaient déjà Augustin et vous, Abbon, vous auriez chanté les louanges du Seigneur et l'évidence de sa présence même si Thomas n'avait pas... Il s'arrêta et ajouta « Je l'imagine ». « Oh, certes !» se hâta d'assurer l'abbé. Et mon maître brisa là, de cette très belle façon, une discussion d'école qui, d'évidence, ne lui plaisait guère. Après quoi, il se remit à parler. Revenons au procès. Voyez, un homme, supposons, a été tué par empoisonnement. C'est là une donnée de l'expérience. Il est possible que j'imagine devant certains signes irréfutables que l'auteur de l'empoisonnement est un autre homme. Sur des enchaînements de causes aussi simples, mon esprit peut intervenir avec une certaine confiance en son pouvoir. Mais comment puis-je compliquer la chaîne de causalité en imaginant que, à l'origine de l'action mauvaise, il y a une autre intervention, cette fois-ci non humaine mais diabolique? Je ne dis pas que ce n'est pas possible, le diable aussi révèle son passage par des signes évidents, comme votre cheval Brunel. Mais pourquoi dois-je chercher ces preuves? N'est-ce pas déjà suffisant si je sais que le coupable est cet homme? Et si je le remets au bras séculier? En tous les cas, sa peine sera la mort, que Dieu lui pardonne. Mais je crois savoir que dans un procès qui s'est déroulé à Kilkenny il y a 3 ans de cela, où certaines personnes furent accusées d'avoir commis d'ignobles crimes, vous n'avez point nié l'intervention diabolique une fois les coupables identifiés. Mais je ne l'ai pas non plus affirmé, à aucun moment, ouvertement. Je ne l'ai point nié non plus, il est vrai. Qui suis-je donc, moi, pour émettre des jugements sur les trames du malin? Surtout, ajouta-t-il, et il parut vouloir insister sur cette raison, dans les cas où ceux qui avaient commencé le procès d'inquisition, l'évêque, les magistrats citoyens et le peuple tout entier, peut-être les accusés eux-mêmes, désiraient vraiment ressentir la présence du démon. Voilà, peut-être est-ce l'unique vraie preuve de la présence du diable que l'intensité avec laquelle tous, en ce moment, aspirent à le savoir à l'œuvre. « Or donc, vous, dit l'abbé d'un ton soucieux, vous me dites qu'en de nombreux procès, le diable n'agit pas seulement chez le coupable, mais peut-être et surtout chez les juges. » « Pourrais-je jamais avancer une affirmation pareille ?» demanda Guillaume. Et je m'aperçus que la question était formulée de manière que l'abbé ne pouvait affirmer qu'il le pouvait. Et Guillaume profita de son silence pour dévier le cours de leur dialogue. « Mais au fond... il s'agit de choses lointaines. J'ai abandonné cette noble activité. Et si je l'ai exercée, c'est parce qu'ainsi en a décidé le Seigneur. Certainement, admit l'abbé. Et maintenant, poursuivit Guillaume, je m'occupe d'autres délicates questions. Et je voudrais m'occuper de celles qui vous tourmentent, si vous m'en parliez. Il me sembla que l'abbé était satisfait de pouvoir terminer cette conversation en revenant à son problème. Il se mit donc à raconter... avec grande prudence dans le choix des mots et longue circonlocution, un fait singulier qui s'était passé quelques jours auparavant et qui avait laissé un grand trouble parmi les moines. Et il dit qu'il en parlait à Guillaume parce que, le sachant grand connaisseur de l'âme humaine et des trames du malin, il espérait qu'il pourrait consacrer partie de son temps précieux à faire la lumière sur une fort douloureuse énigme. Le hasard avait voulu qu'Adelme d'Otrante, un moine encore jeune et pourtant déjà célèbre comme grand maître enlumineur, et qui s'employait justement à orner les manuscrits de la bibliothèque d'images de toute beauté, avait été trouvé un matin par un chevrier au fond de l'escarpement dominé par la tour est de l'édifice. Puisque les autres moines avaient noté sa présence dans le chœur pendant complit, mais qu'il n'avait pas reparu à matine, il était tombé au fond de la pique probablement durant les heures les plus noires de la nuit. Nuit de grandes tempêtes de neige, où tombaient des flocons coupants comme des lames, qui semblaient presque de la grêle poussée par un autan qui soufflait impétueusement. Devenu mou sous cette neige qui d'abord avait fondu et puis durci en lamelles de glace, son corps avait été trouvé au pied du surplomb, déchiqueté par les rochers où il avait rebondi. Pauvre et fragile chose mortelle, que Dieu eut de lui miséricorde. À cause des nombreux rebonds que le corps avait faits dans sa chute, il n'était pas aisé de dire de quel point exact il était tombé. Certainement d'une des verrières qui s'ouvraient sur trois ordres d'étages et sur les trois côtés de la grosse tour exposée vers l'abîme. Et où avez-vous enseveli le pauvre corps, s'enquit Guillaume ?
Dans le cimetière, naturellement, répondit l'abbé. Peut-être l'auriez-vous remarqué, il s'étend entre le côté septentrional de l'église, l'édifice et le potager.
Je vois, dit Guillaume, et je vois que votre problème est le suivant. Si ce malheureux s'était, à Dieu ne plaise, suicidé, puisqu'on ne pouvait penser qu'il fût tombé accidentellement, le lendemain vous auriez trouvé une de ses fenêtres ouvertes, tandis que vous les avez retrouvées toutes fermées, et sans qu'au pied d'aucune apparussent des traces d'eau. L'abbé était un homme, je l'ai dit, d'un grand tact, d'une grande allure, mais cette fois il eut un mouvement de surprise qui lui ôta toute trace de cette dignité qui sied à une personne grave et magnanime, comme le veut Aristote.
« Qui vous l'a dit ?»«
Vous me l'avez dit vous-même, dit Guillaume. Si la fenêtre avait été ouverte, vous auriez aussitôt pensé qu'il s'y était jeté. D'après ce que j'ai pu en juger de l'extérieur, il s'agit de grandes fenêtres à vitrage opaque, et des verrières de ce type ne s'ouvrent pas d'habitude dans des édifices aussi massifs à hauteur d'homme. Si donc elle avait été ouverte, puisqu'il est impossible que le malheureux s'y fût penché et eût perdu l'équilibre, il ne resterait plus qu'à penser à un suicide. En ce cas-là, vous ne l'auriez pas laissé enterrer en terre consacrée. Mais comme vous l'avez enterré chrétiennement, les fenêtres devaient être fermées. Or, si elles étaient fermées, n'ayant jamais rencontré pour ma part, pas même dans les procès en sorcellerie, un mort impénitent auquel Dieu ou le diable ait permis de remonter de l'abîme pour effacer les traces de son forfait, il est évident que le suicidé présumé a été plutôt poussé par une main humaine ou par une force diabolique, comme on veut. Et vous vous demandez qui peut l'avoir, je ne dis pas poussé dans l'abîme, mais hissé contre son gré jusque sur le rebord de la fenêtre. Et vous êtes troublé parce qu'une force maléfique, naturelle ou surnaturelle, c'est à voir, rôde maintenant à travers l'abbaye.
C'est ainsi, dit l'abbé.
Et on ne savait trop s'il confirmait les mots de Guillaume ou se donnait raison à lui-même des raisons que Guillaume avait si admirablement produites.
Mais comment faites-vous pour savoir qu'il n'y avait pas d'eau au pied d'aucune verrière?
Puisque vous m'avez dit que soufflait l'autan. L'eau ne pouvait être poussée contre des fenêtres qui s'ouvrent à l'Orient.
On ne m'avait pas suffisamment dit vos vertus, dit l'abbé. Vous avez raison, il n'y avait point d'eau, et à présent je sais pourquoi. Les choses se sont passées comme vous dites, et maintenant vous comprenez mon angoisse. Cela eût été déjà grave si l'un de mes moines s'était souillé de l'abominable péché de suicide, mais j'ai des raisons de penser qu'un autre d'entre eux s'est souillé d'un péché tout aussi terrible, et n'était que celui-ci.
Avant tout, pourquoi un des moines? Dans l'abbaye, il y a beaucoup d'autres personnes, des palefreniers, des chevriers, des serviteurs.
Certes, c'est une abbaye petite mais riche, admit l'abbé avec suffisance. 150 servants pour 60 moines. Mais tout s'est passé dans l'édifice. Là, comme peut-être vous savez déjà, même si au premier étage sont les cuisines et le réfectoire, aux deux étages supérieurs, il y a le scriptorium et la bibliothèque. Après le souper, on ferme l'édifice. Et il est une règle très rigoureuse qui interdit à quiconque d'y accéder. Il devina la question de Guillaume et ajouta aussitôt, mais clairement à contre-cœur, y compris les moines, naturellement.
Mais j'exclus absolument, absolument, vous comprenez qu'un servant ait eu le courage d'y pénétrer de nuit.
Dans ses yeux passa comme un sourire de défi, qui fut rapide comme l'éclair ou une étoile filante.
Disons qu'ils auraient peur. Vous savez, parfois les ordres donnés aux gens simples, il faut les renforcer avec quelques menaces, comme le présage qu'il puisse arriver quelque chose de terrible aux transgresseurs, et par une force surnaturelle. Un moine, en revanche, je comprends. Non seulement, mais un moine pourrait avoir d'autres raisons pour s'aventurer dans un lieu interdit. Je veux dire des raisons, comment dire, raisonnables, fussent-elles contraires à la règle.
Guillaume se rendit compte que l'abbé était mal à l'aise. Et il émit une question qui peut-être visait à dévier le discours, mais qui produisit un redoublement d'embarras.